Alors, Xavier Mauméjean, simplement, est-ce que tu peux nous parler de Rosée de Feu? Qu'est-ce qu'on va pouvoir lire dans ce roman?
Alors, Rosée de Feu est un roman qui s'étend de fin 44 à mars 45 au Japon. C'est un roman qui se passe au Japon et qui est décrit à travers trois personnages, un petit garçon, son grand frère qui est mobilisé, qui quitte l'université pour intégrer une escadrille kamikaze, et le capitaine qui va historiquement créer la stratégie, la technique des attaques suicides au Japon. Comme ils ont des âges différents, pour moi c'est un peu l'incarnation de l'homme japonais en guerre. Et c'est un travail qui m'a demandé énormément de recherches historiques. J'y ai passé 4 ans. Avec des témoignages et un soutien affectif de familles japonaises concernées, des familles de kamikazes, et le tout avec quand même un argument SF qui est l'existence de dragons, mais pas du tout de dragons de fantasy, de dragons biologiquement plausibles. Donc il y aura un descriptif, tout comme une fiche technique d'avion, des possibilités, des capacités de dragon. Donc c'est pas un monde parallèle, c'est pas une uchronie. Je sais pas ce que c'est, mais ce qui comptait, moi, c'était m'intéresser à ce phénomène que finalement en Occident on connaît pas du tout, qui est les kamikazes.
Pourquoi ça t'intéressait particulièrement les kamikazes? C'est un rapport à la mort?
Alors probablement, oui. Au départ, je voulais faire un space opéra qui se serait appelé Pilote, et qui aurait décrit une escadrille de chasseurs du côté noir, du côté des méchants. Ça m'intéressait beaucoup de faire de comment une bande de jeunes types, des idéalistes et des gars qui sont forcés d'intégrer, allaient vivre ensemble une guerre du mauvais côté. Donc j'ai commencé à lire beaucoup sur les escadrilles nazies et japonaises, avec toutes les nuances que ce type de témoignage contient, parce qu'il ne faut pas croire que c'était tous des fanatiques avec un couteau entre les dents. Et je me suis dit, tout est là, pourquoi finalement le projeter dans l'espace? Tout est là et tellement là que finalement je vais en rester à ça. Bon, et puis évidemment, tu le dis, le rapport à la mort, bon, ça c'est des thématiques qui me sont constantes hein, chez moi. Donc effectivement, j'ai appris, et j'espère le montrer aux lecteurs, que les kamikazes, ça n'existe pas. Il y a autant de raisons de mort que d'individus qui ont plongé à un moment ou à un autre. Et puis tout ça sur fond aussi de l'autre côté de bombardements américains des grandes villes du Japon. Et pour l'anecdote, Rosée de Feu, le titre, c'est le surnom que donnaient les habitants des grandes villes au napalm le matin. Et l'expression, parce que j'en avais parlé à ActuSF il y a 1 an exactement, mais depuis j'ai appris, l'expression a été inventée par Nozaka qui a écrit Le Tombeau des Lucioles. Et tombeau des Lucioles veut dire rosée de feu. C'est-à-dire que enfin, ou plus précisément, le signe qui veut dire Luciole dit aussi rosée de feu. Voilà.
C'est une période qu'on connaît pas forcément très bien, nous. On est fin 44, donc début 45. Quelle était un petit peu l'ambiance au Japon? Qu'est-ce que t'en racontais les familles?
Alors, les familles, ce qu'elles m'ont raconté, c'est poignant. J'ai un témoignage absolument magnifique et puissant d'une famille qui a eu un kamikaze, qui a fait le saut, qui a percuté, et aussi dans la même famille un colonel de l'armée de terre qui était responsable d'un barrage au Japon. Et à la toute fin de la guerre, il a été capturé par l'armée rouge qui est entrée tardivement en guerre, et il est mort dans un camp de prisonniers soviétiques. Et un de ses camarades a prélevé 2 os sur son cadavre. L'un a été enterré au Japon face à la côte soviétique, et l'autre os de ce colonel a été pilé par son épouse et absorbé. Elle a avalé en témoignage d'amour. Et c'est des témoignages aussi puissants que ça que j'ai côtoyés et qui font que je suis très attaché à ce projet.
Pour l'ambiance, justement, quelle était un petit peu l'ambiance de...
Oui, excuse-moi, il y a tellement à dire que l'ambiance est Et l'enjeu est décidé. On sait qu'on a perdu la guerre en fin de 1944. Il y a une mobilisation générale des forces jeunes, des étudiants, et se met en place en octobre 1944 la stratégie kamikaze, dont le nom n'est jamais utilisé. C'est tardivement qu'ils sont appelés les kamikazes, en référence au kamikaze, au vent divin qui avait balayé la flotte mongole de Kubilai Khan. Mais le terme n'est jamais utilisé. Donc il y a des tiraillements entre officiers absolutistes et certains qui veulent arrêter. Il y a vraiment une tension, mais palpable. Et j'essaie de la montrer, mais en même temps, je décris la vie dans un petit village à 65 km de Tokyo, qui peut pas être protégé de la guerre totalement, mais qui vit encore sur des dernières traditions qui vont s'effacer, des beaux kimonos qu'on découpe pour en faire des pantalons, cette espèce de Japon qui disparaît progressivement. Donc c'est une fin, 44, c'est une fin.
Pourquoi avoir mis un élément SF? Ça aurait pu être un roman historique.
Oui, c'est vrai, c'est tout à fait vrai, mais je voulais, je voulais pas décrire un Japon en utilisant des termes comme katana pour un sabre, des choses comme ça. Par exemple, dans le roman, il est question de sabre, mais je voulais quand même que soit présente la tradition japonaise, et donc j'ai pris le dragon parce que tout simplement beaucoup de scènes se passeraient dans les airs, donc c'était un moyen commode. Mais ce dragon, je voulais qu'il soit décrit avec le même désintérêt qu'on peut décrire un avion. Par exemple, à un moment dans le roman, il y a un des jeunes pilotes qui dit à un de ses copains « Mais t'attaches pas à ça, ce n'est qu'un dragon ». C'est-à-dire que d'un côté, il y a des appareils, des avions, et de l'autre, il y a des choses qui existent depuis toujours et auxquelles on ne prête pas intérêt. Mais en même temps, c'était pour moi la possibilité d'avoir un fond légendaire avec un fond historique qui est en fait une de mes constantes. Moi, je mets le souvent mythe et histoire.
Parlons un petit peu du côté directeur de collection. Avec Mango, la collection existe depuis 2 ans, 3 ans.
Oh, 3 ans.
Mais... 3 ans. Quel bilan tu tires de ces 3 premières années?
Alors le bilan personnel, il est très positif. C'est-à-dire que je suis vraiment heureux d'avoir publié ces titres, heureux d'avoir travaillé avec des gens. Très heureux du dernier, qui n'est pas à proprement parler dans la collection, qui a un grand format, La dernière flèche de Jérôme Noirez. Donc d'un point de vue personnel, extrêmement content. D'un point de vue éditorial, les ventes n'ont pas été à la hauteur de ce que l'on espérait. Et paradoxalement, ce sont les grands formats qui fonctionnent. Donc on se dirige progressivement vers du grand format. On sent que La dernière flèche, c'est un peu le numéro 0 de Royaume perdu version 2. Oui, voilà, oui, tout à, exactement. Alors, il semblerait que ce soit un bon diagnostic, parce que en SF, donc chez Audrey Petit, Mongo, les ventes en grand format sont bonnes. La dernière flèche, qui de mon côté, mon premier grand format, les ventes sont très bonnes. Les ventes nettes de caisse sont très bonnes. Donc on se dirige vers le moyen format. Mais c'est donc pas une révolution de fond, c'est une révolution de forme. Mais sinon, le fond reste le même. À ceci près que je m'intéresse à des choses pour la phase 2 un peu plus particulières. J'aimerais préciser davantage et avoir des relectures de contes, mythes et légendes existants, d'où La Belle et la Bête, Robin des Bois, voilà.
D'accord. Quels ont été les titres qui ont entre guillemets le mieux fonctionné?
Alors, les deux titres de Jérôme ont très bien fonctionné. Step Rouge, et on passe d'être, donc de Joanne Elliott, on passe d'être épuisé. Le premier tome de La dernière Odyssée de Fabien, La dernière Odyssée, donc, a très bien marché. Ça, c'est nos titres porteurs dans la collection. Voilà. Et des jolies surprises, des titres qui n'ont pas été flamboyants dans les ventes, mais qui ont été des jolies surprises, comme Le Temple du Dragon de Marianne Lecomte, qui a eu une vie et qui continue d'avoir une vie très honorable.
Petite question, alors du coup, les prochains en grand format, le même nombre de titres par an, et quels seront les titres ?
Alors, même nombre, effectivement, donc c'est un peu un défi, hein, parce qu'on double le nombre de signes par ouvrage, mais même nombre. Alors, une nouvelle auteure, et ce n'est pas un risque, parce qu'elle a vraiment du talent, c'est Sébastien Guillot qui l'a découvert dans son anthologie Dragon. Chez Kalman Levy, c'est Estelle Fay qui va écrire une relecture de La Belle et la Bête dans la Chine classique, donc une sorte de mélange de cinéma de Hong Kong et de conte occidental, une relecture du Petit Chaperon Rouge dans la Roumanie du 18e siècle, assez violente, un peu à la Charlotte Bousquet, sur très beau titre aussi celui-ci, La Marque de la Bête, que j'ai beaucoup aimé, et un autre, La Belle et la Bête, mais une version moderne, chick lit, ce serait le blog de La Belle, et ça s'annonce très bien.
Et toi, à titre personnel, quels sont les projets après Rosée de Feu ?
Alors, après Rosée, en ce moment, je termine un thriller jeunesse pour Flammarion, et après, des nouvelles. J'arrête les romans quelque temps, parce que les nouvelles me manquent, ça fait un bail, et puis les prochains projets que j'aurai vont nécessiter beaucoup de lecture, de recherche. Donc 2010-2011 sont des années de préparation et donc de nouvelles. Ah, et puis bien sûr, France Culture, comme chaque année.
D'accord, eh bien, merci beaucoup.
Merci à toi.